Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui commence. Pour une émission qui commence avec Brume Retina, Tout le monde n'entre pas, un morceau d'un groupe français de 2006. Et ce soir, on va vous parler avec Jean-Mathias d'un livre de François Errant, qui est professeur au Collège de France, sur la chaire Migration et Société. Et donc il a publié un livre récemment au Seuil, dans la collection La République des Idées, qui s'intitule « Immigration, le grand déni ». Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé avec le livre de quelqu'un qui n'est pas démographe, qui n'est pas sociologue, qui est prof de philo, sur l'expression « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », justement en citant quelques faits, finalement, on s'apercevait que cette idée, a priori, entre guillemets, raisonnable, on ne peut pas aider tout le monde, on n'est qu'un pays parmi d'autres, était fondée sur tout un tas d'illusions, de choses fausses et de pensées délirantes, politiquement. Et là, c'est quand même un ouvrage d'un spécialiste de la question, qui justement va se pencher sur, alors, Immigration, le grand déni. Le titre pourrait être ambigu,
parce que ça pourrait être un titre, malgré tout, qui plaît à l'extrême droite, du genre on dénie l'immigration, les pouvoirs publics sont dans le déni. Mais en fait, ce que François Héran va essayer de montrer, c'est que si les pouvoirs publics sont effectivement dans le déni, c'est de tout un tas de choses qui ne donnent tort à toutes les thèses anti-migratoires ou anti-migratoires peut-être de la droite et de l'extrême droite actuellement en France, voire de l'extrême centre, hein, voire de Carole Delga. Mais bon, ici vous avez, et donc il cite énormément de faits, mais pas seulement, parce que derrière il y a aussi toute une réflexion sur ce qui va changer la donne, c'est finalement l'optique qui est prise, ce qui est une optique qui est à 2-3 générations, et une approche assez intéressante, parce que elle va dissoudre tout un tas de constructions mentales ou politiques qu'on peut avoir et qui résistent absolument pas à l'examen des faits.
Avant de rentrer peut-être dans le détail du livre, on commence peut-être par une annonce, parce qu'il y a une annonce importante quand même. Pour tous ceux d'entre vous qui sont un peu disponibles là, dans les prochaines minutes et prochaines heures, parce que suite au nouveau refus de vote à l'Assemblée sur la case des retraites, cet après-midi, si vous avez suivi l'actualité, il y a actuellement, c'est une info qu'on a eue là juste avant l'émission, il semblerait donc qu'il y a des lycéens qui occupent leur lycée au lycée Victor Hugo à Paris, en protestation contre ce énième déni de démocratie. Donc, ils sont actuellement plusieurs dizaines dans l'établissement, nous dit-on, et ils ont besoin de soutien devant assez rapidement. Alors, le lycée Victor Hugo, c'est 27 rue Sévigné, c'est à Paris, c'est dans le Marais, c'est à côté donc de la station Saint-Paul, entre Saint-Paul et la place des Vosges, pour vous situer ça. Donc, 27 rue Sévigné, lycée Victor Hugo, besoin de soutien rapidement devant, pour éviter qu'il se fasse défoncer par les flics rapidement. Donc ce sont des lycéens autonomes qui occupent donc le lycée Victor Hugo depuis la fin de l'après-midi là, donc qui ont besoin de soutien. Donc si vous êtes dans le coin ou pas très loin ou disponible, n'hésitez pas à aller les aider à tenir l'occupation. Voilà, je referme la parenthèse et on revient donc au livre de François Héran, Immigration, le grand déni, dont Michel vient de vous donner un petit peu l'argument, je dirais, général. Tu disais, Héran, c'est effectivement un des spécialistes actuellement des questions démographiques en France, donc de l'étude de la population et particulièrement de l'immigration. Hein, mais on avait déjà commenté un de ses livres aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, après l'assassinat de Samuel Paty, il avait aussi fait un petit travail historique remarquable sur la notion de liberté d'expression, qui était tout à fait clair et intelligent. Et c'est avec Hervé Lebras, en fait, un des démographes qui rappelle régulièrement un certain nombre de réalités sur l'immigration en France et sur les délires et les fantasmes qui empêchent de réfléchir au phénomène habituellement. Alors peut-être le premier constat qu'on peut rappeler sur l'histoire de cette notion de déni, justement. L'idée de François Héran, c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'immigration. Il part au contraire d'un constat inverse, qui est le constat selon lequel en fait la part de population née à l'étranger dans la population globale française augmente régulièrement.
La part de la population née étrangère à l'étranger.
Exactement.
Ça, c'est la définition de l'immigration d'après les critères retenus en France.
Ouais.
Ce qui a tout un tas d'implications, parce que, par exemple, ça veut dire, contrairement à la définition de l'ONU, qui va être des gens simplement nés à l'étranger, c'est-à-dire que des Français nés français à l'étranger, par exemple, vont ne pas être comptés comme immigrés. Alors, selon l'ONU, ils le seraient comptés. Et donc là, vous pouvez avoir des variations de chiffres qui sont relativement importantes.
Mais le pourcentage globalement augmente.
C'est ça.
Et là où il y a déni, c'est en fait de considérer ça, ce pourcentage-là, donc depuis une vingtaine d'années, de considérer ça comme une exception française. Le premier déni, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène qui est mondial et qui est massif. Voilà, les populations se déplacent depuis toujours, mais elles se déplacent tout particulièrement depuis 20 ans. Et il y a ça des raisons très, 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 très simples à comprendre. On va citer un certain nombre de noms. On va d'abord citer l'Afghanistan, on va citer la Syrie, on va citer la Libye.
L'Irak.
L'Irak, et vous avez déjà une idée d'un certain nombre de sources de départ.
Voilà. L'Ukraine, très récemment.
L'Ukraine, évidemment. Donc tout cela sont évidemment des causes majeures de migration humaine, pour des raisons évidentes, de guerre et de danger physique immédiat. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, d'après François Héran, c'est pas tellement de savoir si effectivement il y a des migrations à l'échelle globale en augmentation en France, c'est la question de savoir effectivement, une fois de plus, quelle est la part prise par la France compte tenu de la taille de sa population, de ses ressources, de sa richesse, en comparaison avec ce que font, par exemple, ses voisins.
Comme l'Allemagne,
ou la Suède, ou la Suisse, ou la Belgique, ou le Luxembourg, voilà, ou l'Italie, par exemple.
Mais il va aussi un peu plus loin, parce qu'indépendamment même du fait de savoir quelle est la part juste... nous accueillons.
Déjà, avant ça, faut quand même donner. On va spoiler la fin. C'est qu'en fait, la France accueille nettement moins que ses voisins et qu'elle est dans le peloton de queue des pays de l'Union européenne. Donc ça, faut quand même le dire.
Voilà. Mais aussi, en tant que démographe, il va attaquer l'idée d'une population française homogène.
Bien sûr.
Et ça, c'est quand même, à mon avis, un des gros trucs super importants, c'est qu'il va dire que. Ça, cette idée-là, elle ne tient en réalité sur rien.
C'est le deuxième déni. Le deuxième déni, c'est l'idée qu'effectivement, l'immigration serait un processus d'agression brutale, alors que, en fait, il s'agit d'un processus d'intégration lente.
Oui.
Voilà. Et continue.
Et ce qu'il va dire, c'est l'idée sous-jacente, et là s'installe, à mon sens, le véritable déni d'immigration, et que la population immigrée, surtout si elle est originaire d'une ancienne colonie, ne saurait être une composante légitime de la société française.
Ah, ça, c'est le refus.
C'est ce qu'il va appeler le déni d'immigration. C'est-à-dire l'idée que, globalement, les gens qui viennent vivre en France ne pourront jamais être français de plein droit, disons. Et lui, il cherche à montrer dans son bouquin que cette idée-là ne résiste pas aux faits, en fait. C'est pas une argumentation morale, c'est une argumentation historique et démographique où il va essayer de montrer que, à travers l'histoire, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des Bretons qui étaient vus comme des étrangers. Et que, à chaque fois qu'il y a une espèce de vague migratoire comme ça, il y a d'un côté des résistances, du type « ce ne sont pas des vrais Français », et qu'au bout du compte, tout le monde s'en fout.
Les faits, si on résume, c'est que 1, la France n'est pas attractive.
Oui, aussi.
2, elle n'est pas accueillante. 3, les étrangers s'intègrent.
Oui.
Voilà, sur une génération ou sur deux générations, ils s'intègrent. Donc c'est ça, en fait, la réalité de l'immigration, et que c'est un mécanisme, alors en l'occurrence, qui est global, qui est mondial, qui va pas s'arrêter. Et au passage, le souligne, c'est toujours assez savoureux, il dit qu'en fait, de toute façon, l'augmentation sur les 20 ou sur les 30 dernières années, elle est à peu près indépendante des politiques appliquées par les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ça veut dire qu'en fait, tous les coups de menton, et puis le flicage, et puis les grandes déclarations, notamment d'un Sarkozy, qui a quand même resté pendant plus de 9 ans aux manettes, entre le ministère de l'Intérieur et la présidence de la République, de toute façon, n'a pas freiné d'une semaine l'arrivée des gens qui avaient prévu en fait de venir ou qui se sont trouvés contraints de venir en France.
Par contre, elle tue des gens aux frontières.
Par contre, évidemment, elle tue des gens aux frontières et elle pourrit des vies de milliers, de dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de personnes, ça c'est clair. Mais effectivement, l'idée est finalement de partir de fait. Disons que c'est pas un texte polémique du tout, le texte de Héran. C'est pas un texte polémique au sens où en fait il ne cherche pas à polémiquer avec une position qui serait critiquable politiquement ou moralement. Il affirme lui ses positions. Effectivement, il le dit à la fin du livre. Défendre une forme d'une politique souveraine, ça implique effectivement de prendre aussi en compte la souveraineté interétatique, notamment au sein de l'Union européenne, et d'essayer d'avancer avec les pays les plus avancés en droit. Et puis apprendre évidemment l'héritage des droits de l'homme comme justement une partie très importante de notre souveraineté nationale. Et donc ça, évidemment, c'est une position politique aussi, hein, d'assumer ça. Mais en fait, c'est pas de là que l'on y part, en fait. Hein. Il part effectivement d'une analyse chiffrée, en fait, des phénomènes. Alors bon, peut-être qu'on va pouvoir aussi en présenter un certain nombre. Comme tu disais aussi, sur cette histoire d'intégration, alors lui, c'est l'expression qu'il prend, ça recoupe aussi des thèmes qu'on a déjà discutés assez fréquemment. C'est l'idée que le déni, effectivement, qui consiste à voir une espèce de majorité ethnique blanche, en réalité, de la population française, qui devrait en quelque sorte tout faire pour se perpétuer et qui aurait vocation à se perpétuer. Et évidemment, là, derrière ça, il y a quelque chose de complètement illusoire, c'est-à-dire que cette majorité-là, elle-même, n'est pas composée de gens qui sont ethniquement de la même origine, hein, puisque voilà, elle est remplie de Portugais, d'Italiens, de Belges, d'Espagnols, voilà. Et puis
qui étaient réputés inintégrables
en leur temps, évidemment, et que c'est de toute façon une majorité qui a tendance, qui intègre quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, lentement mais sûrement, tous les éléments, ethniquement d'origine ethnique différente de celle-là, et que donc cette majorité-là, de toute façon, n'a jamais été fixée une fois pour toutes, et qu'elle c'est les minorités qui se majorisent, nous dit Errant. Et ça, c'est un mécanisme démographique contre lequel on ne peut pas grand-chose, et qui effectivement, implique de regarder les choses de manière beaucoup plus fine, en termes de mariage mixte, en termes de d'intégration par le par la famille notamment, puis aussi par le travail, puis ensuite par la politique, etc. Et cette idée-là est importante. Elle n'est pas très loin de ce que d'autres appellent la créolisation, hein, des populations, sur le plan culturel, dirons-nous. Mais c'est finalement une manière démographique et statistique de parler de quelque chose d'assez proche, hein, d'un mécanisme qui est le même.
Un truc qu'on pourrait faire remarquer, c'est que très très souvent les responsables politiques essaient de naturaliser des processus qui sont politiques et qui dépendent de la volonté politique, dans une large mesure, comme par exemple les politiques économiques, et que au sujet de quelque chose qui relève beaucoup plus d'un fait sur lequel la volonté politique n'a pas prise, à savoir les déplacements de population dans le monde, là tout d'un coup on a affaire à un volontarisme illusoire. Et ici, c'est assez amusant de voir cette espèce de décalage. D'un côté, l'économie, ce serait naturel, on n'y peut rien. De l'autre côté, l'immigration, à coup de menton, on y arriverait. Et en réalité, c'est faux dans tous les cas. Et là, je trouvais que c'était un côté amusant du bouquin de Véran, c'est que habituellement la critique... Non, pas Véran, pardon. Ouh là là, je suis fatigué. De Errant. Et on ne va pas parler de l'autre, là. De Errant... C'est que très très souvent la critique des pratiques politiques ou gouvernementales va consister à historiciser ou à sociologiser des processus qu'on essaie de nous faire prendre pour naturels, et là c'est l'inverse. On va dire en fait non, là il faut faire avec, parce que c'est juste un fait, et vous pouvez faire ce que vous voulez, gigoter comme vous voulez, ça changera pas grand chose au bout du compte, sinon que vous aurez fait souffrir beaucoup de gens.
Oui, la question c'est comment effectivement politiquement on peut gérer de manière pragmatique un mécanisme qui est global, mondial et qui est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est le bon. Après, il y a une dimension. Il parle pas comme ça depuis le point de vue de Cyrus. Hein, François Errant, c'est son livre là. Il date de 2023. Hein, il est publié. C'est clairement un argumentaire qui s'inscrit dans le débat sur la future loi Darmanin autour de l'immigration. Hein, donc on va peut-être, je sais pas, faire une première pause musicale. Mais après, il rentrait un peu dans le détail derrière. Mais l'objectif, il est aussi circonstancié, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de donner au public aussi un certain nombre de données factuelles pour intervenir, y compris dans le débat public autour de cette loi à venir, hein, qui a été annoncée depuis décembre dernier, et qui va très certainement régler le problème à la fois avec fermeté et humanité, puisque c'est le mantra du ministre de l'Intérieur, de Darmanin, et on a toute confiance et pleine confiance, hein, dans ses capacités à la fois de fermeté et d'humanité.
De toute façon, je pense qu'elle sera à peu près aussi efficace que les 20 dernières lois qui ont été passées en 30 ans à ce sujet. Mmh.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui va reprendre pour sa deuxième partie, autour d'un livre de François Héran. Mais avant ça, on a une annonce à repasser, on l'a déjà passé tout à l'heure, mais il semble qu'il y ait un petit caractère d'urgence. C'est une information qu'on a eue juste avant l'émission, pour protester contre le énième refus de démocratie autour de la case des retraites et le refus du vote de la proposition d'abrogation. Il y a actuellement plusieurs dizaines de lycéens qui occupent le lycée Victor Hugo à Paris. Lycée Victor Hugo, ça se trouve 27 rue Sévigné. C'est à côté de la station Saint-Paul-le-Marais, entre Saint-Paul et la place des Vosges. Ils ont besoin de soutien devant pour ne pas se faire défoncer par une intervention policière. Donc voilà, il y a un appel à soutien qui est lancé. Si vous êtes dans le coin ou si vous êtes disponible dans les prochaines minutes, et dizaines de minutes, n'hésitez pas à aller les aider, les soutenir devant le lycée Victor Hugo à Paris, Saint-Paul-le-Marais, c'est dans le 3e arrondissement, 27 rue Sévigné. Voilà pour l'annonce. Alors, on va revenir à la discussion du livre de François Héran, Immigration, le grand déni, qui est édité là, qui vient de sortir en librairie, hein, c'est 2023, à la République des Idées, à la collection de la République des Idées au Seuil. On annonçait juste avant la première pause musicale que le livre d'Héran, qui est donc un, si ce n'est le spécialiste en fait des questions migratoires en France actuellement, professeur au Collège de France. C'est un livre circonstancié puisque en fait il a la vocation à apporter des arguments et des données dans le futur débat public autour de la loi immigration, dite déjà loi Darmanin. Alors on peut peut-être lire rapidement, parce qu'on a tiqué tous les deux, Michel et moi, on a réagi sur le même passage, une espèce de bilan très synthétique en 7 points. Pour vous donner un petit peu les éléments factuels qui sont apportés par Héran. Alors ça se trouve page 69-70 du livre. Donc il donne un bilan chiffré en 7 points, on les reprend rapidement. Donc je cite, « La dynamique de l'immigration comporte des versants qui peuvent paraître contradictoires », nous dit Héran. Premier point, on a raison de rappeler que l'immigration en France représente une part croissante de la population totale. Le pays n'a jamais eu autant d'immigrés, c'est-à-dire de 11 à 12% environ.
Ça, c'est les chiffres sont posés depuis 1851 à peu près, à des premiers recensements qui va s'intéresser à ça. Ouais. Et Héran, lui, est plutôt partisan d'une interprétation large, plus 11-12 que 10.
Voilà. Deuxième point, cette progression ne s'explique pas par le laxisme ou la lâcheté des gouvernements. Elle s'inscrit dans un mouvement planétaire auquel la France peut difficilement échapper. En Europe, c'est une lame de fond qui touche la quasi-totalité des démocraties. Seuls restent à l'écart les régimes illibéraux d'Europe centrale, qui sont largement des pays d'émigration, faute d'être attractifs.
Et ça, c'est un point sur lequel il va souvent revenir dans son bouquin, c'est que les rêves anti-migratoires qu'entretiennent certains des personnels politiques français, en fait, rapprochent la France des pires pays en matière de liberté publique.
Et des pays en déclin.
Et des pays en déclin.
Et des pays en déclin, c'est-à-dire des pays dont on s'en va.
C'est ça, des pays qu'on quitte. Hein,
troisième point, et pourtant, la progression de la population immigrée en France reste bien en deçà du rythme observé dans le reste d'Europe de l'Ouest, 36% de progression au lieu de 58% si on suit les données de l'ONU. Sur le chiffre global, hein, voilà. Quatrième point, compte tenu de sa population et de son revenu par habitant, la France est loin d'avoir pris sa part dans l'accueil des exilés du Moyen-Orient. On a parlé de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak. Elle a été peu touchée par la crise des réfugiés de 2015. Le fameux tsunami dénoncé par Marine Le Pen n'a pas eu lieu. L'effort consenti pour accueillir les Ukrainiens en 2022, si louable et efficace soit-il, est encore loin du compte, vu le poids démographique et économique de la France en Europe. L'accueil des exilés à travers l'Union européenne a largement reposé sur les épaules des diasporas existantes. Ça, c'est un point sur lequel il faudra revenir. Mais l'action de l'État et l'action publique a été marginale par rapport à celle des communautés déjà en place sur le territoire. Donc, c'est le quatrième point. Cinquième point, la hausse des premiers titres de séjour accordés par les autorités françaises aux adultes non européens, tout motif réuni, polarise bien des craintes. Mais quand on examine une à une les catégories de motifs, grande est la surprise, nous dit Héran. Les catégories qui contribuent le plus à la hausse générale des titres de séjour sont les étudiants internationaux, les travailleurs qualifiés et les réfugiés reconnus ou régularisés. La montée de ces titres n'a rien de surprenant dans le contexte international. Traduction, le regroupement familial qui est décrié à longueur de temps, notamment là, il y a trois jours, par le guignol de Philippe, d'Edouard Philippe, sur il faut remettre en cause l'accord avec l'Algérie, etc., est marginal, hein, de l'augmentation relative du nombre
de migrants. C'est 4%,
c'est ça.
C'est plus un chiffre ridicule.
C'est pas 4%, il a augmenté de 4%, alors que le reste a augmenté de 20 ou 16 ou 20.
C'est ça. Et les catégories qui constituent les titres de séjour sont aussi des gens qu'en réalité, on a intérêt à accueillir.
Bah, les étudiants,
les travailleurs qualifiés.
Les travailleurs qualifiés, donc ça c'est loin devant.
Et les réfugiés reconnus ou réalisés, on a intérêt à les accueillir si on veut être un pays pas trop dégueulasse, quoi, disons.
Sixième point, en revanche, la migration familiale, donc on y vient, la migration familiale est contenue, nous dit Errant, et même en recul depuis une quinzaine d'années. Rien ne justifie les attaques acharnées dont elle est l'objet, encore moins l'offensive contre l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, accusé bien à tort d'autoriser d'office le regroupement familial, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il ménage largement le pouvoir d'appréciation des États.
Mais on vous lira à l'occasion la liste des exceptions à l'article 8 autorisé par la CDEH, et en fait, si on prend en compte toutes les exceptions, ça signifie que les États font à peu près ce qu'ils veulent.
Voilà, ce qui veut dire que de toute façon, même en matière de regroupement familial, c'est certainement pas l'Europe qui fait la loi. Contrairement aux fantasmes, bref. Septième point, une dernière source d'immigration est liée à la libre circulation des ressortissants de l'espace économique européen. C'est un point sur lequel je trouve qu'il est très intéressant parce qu'on en parle rarement. Et alors donc pour les ressortissants de l'espace économique européen, elle se révèle décevante pour la France, cette immigration. Pourquoi ? Parce que les populations qui jouissent de la liberté d'installation en Europe ont d'autres préférences. C'est-à-dire que les étudiants, notamment de l'Union européenne, vont peu en France. Voilà. En comparaison avec notamment l'Allemagne, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la Belgique,
l'Autriche,
la Suisse et l'Autriche sont... Et
même la Belgique, tu l'as dit.
La Belgique, oui. Ouais. Tous ces pays sont largement devant nous, hein, en termes d'accueil d'étudiants européens ou de salariés européens, tout simplement. Donc, la conclusion qu'il en tire, hein, à la fin de ce troisième chapitre, c'est qu'au risque de nous répéter et n'en déplaise à ceux qui affirment le contraire, sans avoir examiné les données de base, la France n'est pas le pays le plus attractif d'Europe, bien au contraire. Il faudrait du reste s'en inquiéter et mettre le sujet sur la table. Pourquoi est-il absent de nos débats sur l'immigration, hein ? Donc ça, c'est une manière, effectivement... très intéressante, je trouve, de poser la question, c'est-à-dire effectivement de poser non pas l'idée de voilà l'espèce de vision obsidionale là, de la forteresse assiégée et submergée, mais plutôt de s'interroger sur le manque d'attractivité de la France, hein, en comparaison des pays voisins, et ce que ça implique, hein, effectivement, sur l'image du pays à l'étranger, et sur ses capacités d'accueil, ou en tout cas la manière dont il les perçoit. C'est des questions qui sont effectivement fortes. Alors... On peut préciser un petit peu les données sur les chiffres qu'ils présentent là, les données statistiques brutes. Par exemple, on a parlé beaucoup en comparaison, hein, par la proportion de population née à l'étranger dans les pays de l'Union européenne. Ça, c'est important, hein, pour essayer de classer et de voir où se situe la France par rapport à ses voisins. Donc, en proportion de population née à l'étranger, c'est-à-dire les étrangers nés à l'étranger, hein, ce qui prend comme critère pour mesurer la présence de...
Quel critère officiel ?
Voilà, quel critère officiel, hein, de la présence de la mesure de l'immigration. Alors, en Union européenne, là où vous avez le plus fort taux, c'est en Suède. C'est-à-dire la population la part de population née à l'étranger hors de l'Union européenne, c'est 14% en France et 5% dans l'Union européenne.
En Suède.
Derrière, vous avez le Luxembourg. 13% de la population née en dehors de l'Union européenne, 35% dans l'Union européenne. Ça, c'est tous les travailleurs frontaliers ou expatriés qui viennent d'Europe. Hein. Le cas est un peu spécial. Ensuite, c'est l'Estonie. Aussi étonnant que ça puisse paraître, mais parce qu'ils ne sont pas très loin de la Grèce. Hein, voilà,
donc, l'Estonie c'est un tout petit peu loin, c'est dans les Pays-Baltes.
Ça allait un petit peu vite. Non, évidemment non. Donc on a, mais oui, politique d'accueil comparable à celle de la Suède, hein, c'est-à-dire effectivement. Donc alors 13%, 2% nés dans l'Union européenne. Ensuite vous avez Malte.
Et donc là c'est près de la Grèce, effectivement.
Près de la Grèce, là en l'occurrence on y est. La Suisse, 12%, là je donne les chiffres hors de l'Union européenne, 12% nés hors de l'Union européenne, la Croatie c'est pareil, la Lettonie 11%, l'Autriche 11%, l'Espagne 11%, l'Allemagne 10%, Slovénie 10%, Pays-Bas 10%, Belgique 10% et France 9%.
À égalité avec la Norvège et la Grèce.
Voilà, on est juste devant la Norvège et la... Enfin, devant, on est à égalité avec la Norvège et la Grèce. Donc, autant vous dire qu'effectivement, on est relativement loin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, on a effectivement derrière, il y a aussi là le Royaume-Uni, 9%, ensuite Chypre, Danemark, etc. Donc, il y a du monde derrière, hein, ça c'est clair. Les derniers qui ferment la marche, ça c'est intéressant de l'avoir en tête aussi, hein, donc République tchèque, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Pologne, Slovaquie, hein, qui sont des pays dont on part. Hein, des pays qui sont en crise démographique avancée et des pays dont on part et qui n'ont jamais historiquement, de toute façon, été des pays d'immigration.
D'ailleurs, Héran se plaît à rappeler le fait que c'était des pays qui étaient sous la coupe de l'URSS et qui reposaient aussi sur une fermeture.
C'est société fermée. Hein,
c'est société fermée.
Voilà. Donc, et elle le reste.
Et elle le reste, et donc ça le fait bien rire de constater à quel point Marine Le Pen peut finalement se trouver d'accord avec des héritiers de dictatures communistes.
Qui depuis effectivement se revendiquent de droite, mais sont toujours financés par Moscou, je dis ça, je dis rien. Voilà.
Il n'a pas de preuve. Donc oui, il y avait ces chiffres qui étaient, évidemment, bon, il se plaît toujours à rappeler à quel point les, ça je ne résiste pas à l'occasion de vous le dire, ça, on en parlait. À cette occasion, la présidente du Rassemblement National a fustigé l'immigration, ce fléau dont nos nations doivent se préserver, et félicité Viktor Orban, en Hongrie, pour son choix courageux de voir préserver son beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'UE. Sans se rendre compte que la double tentation illibérale et xénophobe se situe dans l'héritage du communisme qui a muré les peuples pendant 40 ans et les a empêchés de se familiariser avec la présence de l'étranger. Donc, et il dit « L'opposition des deux Allemagnes apporte une confirmation éclatante à la théorie du contact. Ce n'est pas le surnombre de migrants qui a provoqué en Allemagne l'essor des partis Pegida et AfD entre 2014 et 2016, mais l'absence de familiarité avec la migration dans l'ex-RDA. » Et là, il y a une petite formule que je trouve assez frappante. Il dit « Les étrangers étaient plutôt à l'ouest et le racisme à l'est. »
Oui, c'est intéressant. Et il dit, effectivement, c'est une donnée qui est importante.
Avec la théorie du contact, qui est une théorie qui a été formulée par un psychologue expérimental que je ne connaissais pas du tout, Gordon Allport, dans un vieux livre en plus de 1954 qui s'appelle « La nature du préjugé ». Je ne sais pas s'il a été traduit de « Nature of Prejudice ». Il dit le résultat central est que l'entretien de contact personnel entre les groupes tend à réduire les préjugés racistes, sexistes ou anti-handicapés ou validistes. Elle a été maintes fois validée et précisée. Ce qui fait qu'effectivement, un pays dans lequel on va rejeter les étrangers, c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'étrangers.
Oui, c'est ça. Il n'y a aucune corrélation entre la présence d'étrangers et les réactions
racistes.
En termes de xénophobie ou de racisme.
Au contraire.
C'est plutôt l'inverse.
Donc évidemment, Donc là, c'est quand même assez amusant. Après, il y a la part de l'immigration en France. Et lui, avec l'idée que justement, là, c'est une espèce d'événement naturel, la migration, en tout cas, c'est un fait sur lequel la politique a peu prise, on l'avait déjà dit. Et ensuite, il va se pencher un petit peu sur l'accueil des exilés. Et on pourrait dire la grande peur des racistes de 2015, quand tout d'un coup, on s'est retrouvé face à des pays qui étaient pris dans la guerre et la guerre civile et la déstabilisation politique, qui étaient en particulier la Syrie, et avec... des décisions politiques, en particulier en Allemagne, qui étaient assez courageuses. Courageuses, oui, non, lui, il va même dire que c'est même pas courageux, parce qu'il dit que quand Angela Merkel dit on peut accueillir, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, elle entérine un fait qui est déjà là.
Elle accompagne
une dynamique qui est déjà là. Contre laquelle elle peut rien. Mais malgré tout, il semble qu'elle est.
Le courage politique, il est contre ceux qui refusent. Hein,
c'est ça. Qui était dans son gouvernement.
Ouais.
De droite, oui, c'est ça. Parce qu'ils disent justement, on apprendra lors de la remise en cause de son doctorat honoris causa à Harvard, que c'était farouchement opposé aux membres de son cabinet. Qui voulait en août 2015 ériger un mur à la frontière sud-est de l'Allemagne. Un mur. Et donc il dit, lui, en gros, quand Quand elle dit on va accueillir jusqu'à 800 000 personnes, il rappelle que l'Allemagne a déjà accueilli à ce moment-là 400 000 personnes. Et il dit Merkel en fait ne fixe ainsi ni un objectif ni un plafond, elle se contente d'anticiper un mouvement déjà arrivé à mi-parcours. Donc ici c'est simplement, c'est pas une politique particulièrement, c'est une politique réaliste, disons, de Merkel. Et donc, par rapport à ça, j'aime bien aussi peut-être la petite analyse qu'il va faire de la position de la France par rapport à ça. Parce que, justement, il dit, une fois la déclaration de Merkel publique, pour la France, les autorités françaises sont un petit peu emmerdées. Parce que, pour la France, ici, comment se réclamer de la tradition d'accueil hautement revendiquée par la patrie des droits de l'homme, à côté d'une nation qui est littéralement 10 fois plus accueillante?
Ouais, c'est-à-dire statistiquement.
Statistiquement. L'Allemagne a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France, sachant que l'Allemagne n'est pas 10 fois plus riche que la France. Et il ajoute, heureusement pour la France, il existait des États membres plus frileux encore, réunis dans le groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, farouchement opposés à tout plan européen de répartition équitable des demandeurs d'asile. Et donc la France a pu, à ce moment-là, de manière totalement hypocrite, prétendre occuper une position de juste milieu, type l'Allemagne accueille trop, la Hongrie accueille pas assez, alors qu'en réalité, on était beaucoup plus proche de la Hongrie qu'autre chose. Et là, il s'en prend à qui ? À Emmanuel Valls.
Pour ce qui est des réfugiés, on est d'accord.
Pour ce qui est des réfugiés, oui.
Sur la catégorie réfugiés.
Parce que là, il dit, voilà, l'accueil réservé par la France aux Syriens et aux Afghans s'est révélé plus proche du niveau hongrois ou polonais que du niveau allemand. Et après, il dit, aux surprises, on découvrit que les demandeurs d'asile avaient eux-mêmes leurs préférences et qu'ils gagnaient en priorité les pays qui se disaient prêts à les accueillir.
Alors ça, c'est les premiers chiffres qu'il donne. Effectivement, c'est sur la catégorie, les analyses et les données qui sont disponibles sur la catégorie d'étrangers. Et la part, effectivement, d'étrangers nés à l'étranger dans la population totale. Alors évidemment, l'analyse, elle devient aussi plus intéressante et plus complexe quand on s'intéresse non pas simplement à la part d'étrangers nés à l'étranger présents à l'instant T, mais qu'on prend en compte aussi les phénomènes de génération, c'est-à-dire la France est un pays dont historiquement qui pratique le droit du sol, c'est-à-dire qu'effectivement si on est sur le sol français, eh bien on a la nationalité française, et du coup évidemment derrière ça il y a aussi toute la dimension d'intégration possible ou pas, refusée ou pas, encouragé ou pas. Et donc, si on met si on étudie la migration sur les... C'est là où les questions des minorités ethniques sur le sol français ne recoupent pas forcément les questions de nationalité. Or, on sait évidemment que pour l'extrême droite, à la Le Pen ou à la Zemmour, les politiques d'immigration, enfin les objectifs d'immigration zéro ou de remigration, ils visent bien effectivement une espèce d'épuration, d'épuration ethnique, il n'y a pas d'autre mot en fait, et de déportation ethnique dont on irait chercher effectivement, alors on ne sait pas trop jusqu'à quel ascendant. Dans les faits, parce qu'effectivement, une fois que tu as dégagé des étrangers, puis que tu t'attaques à ceux qui sont de parents étrangers, ça devient... Bon, bref. Donc on voit bien aussi le côté délirant, en fait, et le côté un peu fou du projet, des discours qui peuvent être tenus quand même par quelqu'un comme Zemmour. Il rappelle aussi un certain nombre de chiffres, et là, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en gros, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'effectivement... rapidement, on s'aperçoit, alors les deux chiffres à avoir en tête, c'est que il nous dit, si on prend les gens de moins de 60 ans, la population de moins de 60 ans en France, vous trouverez un tiers des personnes présentes en France de moins de 60 ans à au moins un ascendant immigré. Ce qui est beaucoup. En revanche, et ça c'est un chiffre qui est pour lui encore plus intéressant, c'est que seuls 5% de ces personnes-là ont 4 ascendants immigrés. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à tout ce qui est dit et répété à longueur de temps, il y a une intégration démographique qui se fait par le brassage et la mixité. C'est-à-dire que une infime minorité, effectivement, de population d'origine étrangère reste en quelque sorte entre étrangers entre guillemets ou entre personnes d'origine immigrée du point de vue des mariages, du point de vue des filiations, etc. C'est-à-dire que la réalité des choses, c'est qu'effectivement, l'immigration est un phénomène qui touche une part toujours plus importante de la population française, mais c'est absolument pas incompatible avec le fait que l'immigration s'intègre très largement à 95%, enfin ça dépend des critères qu'on retient évidemment, mais du point de vue démographique ou du point de vue familial en quelque sorte, elle s'intègre très très largement dans la population française. Simplement, évidemment, c'est les questions d'échelle sur lesquelles tu mesures ça, qui sont cruciales ici. Et là, effectivement, c'est à l'échelle d'une ou deux générations. Si t'es sur 60 ans, effectivement, c'était sur deux générations, ouais, deux et demi même, hein, à la limite. Ouais. Et à l'échelle de deux et demi, effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que bah, l'intégration, elle est réalisée, du point de vue familial en tout cas, à quasi 95.
C'est-à-dire et lui, il a cette formule un peu frappante, l'immigration en France n'est pas une intrusion massive, mais une infusion durable.
Voilà. Et ça, je trouve que c'est sans doute c'est une des meilleures formules, effectivement.
Infusion durable, c'est... Voilà.
Voilà. Et c'est pas polémique hein, sous sa plume, c'est vraiment descriptif. Alors, on rappelle, peut-être, on peut citer ça aussi. Il parle, lui, d'un brassage sur trois générations, donc il met ses page 74. Il dit, on sait maintenant que près d'un tiers des adultes de 18 à 60 ans 31% exactement, compte au moins un parent ou un grand-parent immigré. Or, ce résultat va de pair avec un autre résultat plus fondamental encore. 5% seulement des adultes de 18 à 60 ans ont 4 grands-parents immigrés. Parmi les personnes ayant un lien avec l'immigration maghrébine, la proportion plafonne à 20%. Il faut bien saisir ce paradoxe, alors que près d'un tiers de la population vivant en France a un lien avec l'immigration sur trois générations, il est rare d'avoir une quadruple ascendance immigrée. Ça tient à un phénomène majeur, l'ampleur des unions mixtes nouées dès la deuxième génération, renforcée par la réduction rapide de la taille des familles d'une génération à l'autre, et à mesure qu'elle gagne en importance, la composante migratoire pénètre la société française et ce faisant, le brassage progresse au fil des générations, ce qui ne veut pas dire que cette composante se dilue dans la masse ou se fonde dans le paysage. Le diagnostic porté il y a 15 ans sur la dynamique migratoire de la France se trouve confirmé ici par un autre biais, citation que tu mentionnais à l'instant. L'immigration en France n'est pas une intrusion massive mais une infusion durable. Alors évidemment, une fois qu'on a ces chiffres en tête là, il devient aussi beaucoup plus facile de comprendre les dynamiques d'intégration qui sont à l'œuvre. Et notamment ce qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont les groupes perçus comme des minorités ethniques, exogènes, on va dire, à la population française, sont en fait des groupes qui sont toujours en dynamique d'intégration, en réalité. Et le curseur qui permet de définir ce qui serait une majorité de la population, une majorité ethnique ou homogène, évidemment, ça, c'est quelque chose qui bouge complètement. Alors, il le rappelle, tu l'as dit, à l'échelle historique, c'est au début du chapitre 5, hein, donc quand il s'amuse sur l'idée de continuité historique, on en parlera un petit peu après, parce qu'il y a des analyses intéressantes, notamment sur Mayotte.
Il rappelle...
Juste sur ce chiffre-là, peut-être, sur le caractère, justement, déjà, très largement composite de la population française dite majoritaire. Hein. Donc, il cite un historien américain de la population. Au XIIIe siècle, hein, donc il fait une espèce de bilan, si vous voulez... des différentes vagues d'intégration de populations qui ont fait en fait l'histoire de France. Donc au XIIIe siècle, c'est le Languedoc et les régions du centre hein, qui sont intégrées au Royaume de France. Au XVe, l'Aquitaine et la Provence. Au XVIe, la Bretagne. Au XVIIe, la Navarre, le Béarn, le Pays Basque, le Roussillon et la Cerdagne. Une partie de l'Alsace et des Flandres françaises, la Franche-Comté. Au XVIIIe, le Duché de Lorraine, la Corse, l'État pontifical du Comtat Venaissin. Au XIXe, la Savoie et Nice. Et l'historien américain de conclure, nous dit Véran, que la France métropolitaine, est un empire colonial qui a réuni sur plusieurs millénaires et dans une structure administrative commune des territoires de cultures diverses, dont certains très éloignés de la culture francophone. Alors évidemment, là on est sur du temps très 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 long, on n'est plus sur une ou deux générations, mais évidemment c'est quand même important de l'avoir présent à l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, ça prouve que historiquement, l'idée qu'il y aurait une population majoritaire, transhistorique, n'a tout simplement aucun sens historique.
La France éternelle de Macron devant le Mont-Saint-Michel qui aurait 1000 ans, ça n'existe pas.
Ben voilà. Si vous mettez ça effectivement sur 1000 ans, en fait, vous êtes obligé de regarder les données telles que Héran les rappelle. We'll be right back.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et après, ces morceaux œcuméniques et, comment dire, et consensuels qui nous réunissent tous autour de l'amour des petits lapins et des bonbons. Vous venez d'entendre donc Verdun, c'est ça la France, un beau morceau bien classique des années 1990 de la France éternelle. Et Cécilia, un morceau de Woke, Refugees, c'est un morceau, c'est José qui nous dit que c'était Woke. Hein.
Un morceau donc, on comprend pas,
donc c'est pas grave. Donc un truc de Yuka, là, Yuka 2019, voilà. Et donc ce soir on vous présentait donc un livre de François Héran, Immigration, Le Grand Déni, publié au Seuil en 2023.
On est
dans l'actu. Une petite annonce pour Victor Hugo.
Ouais, alors toujours à Victor Hugo, toujours l'occupation des lycéens de Victor Hugo, la suite au refus de vote de la loi d'abrogation de la case des retraites. Donc les lycéens de Victor Hugo occupent actuellement leur établissement. C'est dans le Marais, 27 rue Sévigné, dans le 3e arrondissement, à côté de Saint-Paul-le-Marais. Les flics sont devant là maintenant. Donc en fait, il y a visiblement une demande de soutien rapide. Donc si vous êtes dans le coin, dans le 3e arrondissement ou pas trop loin de ce quartier à Paris, n'hésitez pas à aller les soutenir et à aller faire en sorte que ça se passe, que cette occupation se passe au mieux et qu'ils ne se fassent pas défoncer par la police. Merci pour eux. Lycée Victor Hugo, demande de soutien, 27 rue Sévigné. C'est dans le 3e arrondissement à Paris.
Et donc, on vous présentait le bouquin de François Héran, Immigration, Le Grand Déni, publié au Seuil. Et on était parti de l'idée de. Après, une des dernières idées qu'on vous présentait, c'est quand les minorités se majorisent. C'est-à-dire que François Héran, un bon démographe qui regarde un petit peu le temps long, montre que finalement l'idée qu'une majorité se transformerait en quelque, comment dire, en minorité assiégée par les anciennes minorités ne tient pas vraiment la route, parce que de fait cette majorité n'existe pas et qu'elle est toujours mouvante. Et que donc, comme elle se conserve pas sur le temps long, elle est pas assiégée, elle n'existe pas.
C'est-à-dire que dans les faits, en fait, la découverte extraordinaire, en fait, dont François Héran nous fait part, c'est que la France éternelle n'existe pas. José a fait un collapse.
José s'est effondré. Donc il y a un appel au Puy du Fou, voilà. Et alors le chapitre 5 de Héran va pas l'arranger, puisqu'il s'intitule Un droit imaginaire à la continuité historique. Et cette espèce de continuité historique, Héran la reprend un petit peu dans le temps long. Et donc là, Jean-Mathias nous citait l'historien américain qui montre que même la France métropolitaine, si on la prend dans le temps très long, sur 1000 ans, est un empire colonial qui a colonisé la Bretagne, la Savoie, tout un tas d'autres pays. Et il va aussi montrer à quel point, dans ces époques-là, jusqu'au 19e siècle facilement, la bourgeoisie parisienne va racialiser les gens qui viennent d'autres régions qu'aujourd'hui on considère comme françaises.
Notamment tout au long du 18e et surtout du 19e siècle, qu'effectivement tu as une espèce de barbarisation et d'animalisation même, de racialisation en tout cas, ça c'est clair. Qui croise évidemment les origines régionales, mais aussi évidemment les origines sociales. Comme toujours, quoi, en fait.
Comme toujours.
Donc, voilà.
Et donc, cette espèce de droit à la continuité historique.
Alors, ça, tu reprécises, parce qu'en fait, la formule, en fait, est de Sarkozy.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
C'est une formule de Sarkozy de 2016. Hein, voilà, c'est ça.
Et il dit, cette formule résonne avec une autre. La France est menacée dans sa continuité historique. Intertitre très visible figurant dans un long discours programme de Le Pen en janvier 2002. Et donc, c'est Sarkozy qui, 14 ans après, va reprendre cette idée de continuité historique. Et
Héran montre qu'elle, en fait, c'est la cousine de l'idée de grand remplacement. C'est la même idée. C'est-à-dire qu'effectivement, si la population française de souche, voilà, allons-y, blanche, voilà, soyons clairs, a droit à la continuité historique, c'est qu'effectivement, les populations non de souche et non blanches, voilà, ne sont pas, voilà, viennent rompre quelque chose, viennent interrompre une continuité historique, dont on a vu que historiquement, elle repose sur que dalle. Bon, donc c'est ça le contexte. Et effectivement, c'est intéressant qu'il montre les origines lepénistes du concept, mais le fait qu'il est repris par Sarkozy.
Puis par Finkielkraut.
Puis par la droite, voilà.
Oui.
dite républicaine, évidemment. Voilà, allègrement. Hein, donc, et en fait, c'est le raisonnement est le même. C'est-à-dire que parler de continuité historique et d'un noyau voilà, ethniquement cohérent, pur, homogène, et voilà, de la population française, qui aurait comme ça une continuité historique, c'est le complément, en quelque sorte, de la parano du grand remplacement.
Et non sans malice.
Qui n'existe pas,
qui est une fiction. Et non sans malice, François Héran fait remarque que, ce faisant, on s'abstient de poser la question réciproque, celle de la bonne conscience avec laquelle l'Occident civilisateur a introduit une discontinuité historique dans les sociétés colonisées ou mondialisées.
Évidemment. Alors, le morceau de bravoure, évidemment, alors oui. Il parle des colonies, parce que voilà.
Ça, ce serait bien de vous en parler.
Mais le morceau de bravoure, c'est évidemment sur Mayotte, où là, alors du coup, on n'est pas très loin, on est en pleine actu aussi, en hein, pleine actu, en pleine Darmanin vibe, avec les coups de menton et les grands démantèlements de bidonville sur Mayotte. Alors, il rappelle l'historique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, Mayotte est devenue un département français suite à un référendum organisé en 2009, qui a donc conduit et entériné la séparation de l'île de Mayotte de l'archipel des Comores. Ça, effectivement, ça a été un vote auquel ont poussé les Mahorais locaux de Mayotte pour s'arrimer, bah, évidemment, au territoire français, et puis aussi, évidemment, aux prestations et au niveau de vie qui est espéré hein, par ce rattachement. C'est une aberration. C'est une aberration démographique, politique. Pourquoi ? Bah, parce que ce que Héran rappelle, c'est qu'en fait, on est au cœur d'un archipel. Les Comores, et qu'en fait, la caractéristique d'un archipel, c'est que ce sont les lieux de migration les plus développés, puisqu'en fait, par définition, quand on est sur une île, ça réduit les horizons, les possibilités de développer ses projets, de trouver du boulot, etc. Et donc, à plus forte raison, quand on est sur un archipel, eh ben, on passe son temps à circuler d'une île à l'autre, et voire au-delà. Donc, ce sont des lieux de circulation et de migration qui sont toujours intenses. Alors, si vous ajoutez à ça le fait que le reste de l'archipel des Comores est à peu près 9 fois plus pauvre que... Non, pas 9 fois plus pauvre, c'est Mayotte qui est 9 fois plus pauvre que le niveau de vie de Mayotte est 9 fois inférieur... 9 fois
non, le PIB par habitant de Mayotte est 8 fois et demi plus élevé que celui des Comores.
D'accord.
Voilà. Ce qui n'empêche pas l'île d'être le département le plus pauvre de France.
Voilà. Mais donc comparé à la France, évidemment, à Mayotte, c'est pauvre. Mais comparé aux Comores, c'est voilà 8 fois plus hein, qu'en PIB par tête. Donc évidemment, en fait, la pompe aspirante dont on nous rabat les oreilles à l'extrême droite, etc., elle est créée par la départementalisation et par le fait de séparer Mayotte de l'archipel des Comores. Et comme l'ONU, effectivement, l'avait dit en mettant en garde la France au moment du référendum de départementalisation. Donc, en fait, on a un problème qui est démographiquement insoluble. C'est-à-dire que il va plus loin que ça, en expliquant que du coup, à partir du moment où, du jour au lendemain, y a des gens qui deviennent français et des gens qui, du coup, ne le sont plus, que ces gens entre eux sont cousins, qui ont des liens effectivement familiaux, culturels, linguistiques, anciens et très forts. En fait, vous criminalisez, vous faites basculer dans la clandestinité et dans l'illégalité, toute une partie de la population, et vous amenez en fait à développer une violence quasiment fratricide, avec l'idée que du coup, il y a une espèce de spirale de l'ineptie, puisque en fait, pour essayer de lutter contre cette migration qui est quasiment mécanique, en fait. On fait en sorte que Mayotte soit moins attractive, en faisant en sorte que Mayotte soit un petit peu moins française, comme dit pudiquement Héran, c'est-à-dire en retirant des droits fondamentaux qui sont ceux mis en place dans les autres départements français, et en refusant par exemple de prendre en charge les mineurs isolés, en refusant l'aide au retour, en multipliant les obstacles pour les régularisations, en refusant la naturalisation des enfants nés de parents maorais. Si au moins un des deux parents n'était pas sur le territoire 3 mois avant la naissance de l'enfant, ça veut dire que vous voyez le dispositif est absolument particulièrement pervers, et effectivement Héran le rappelle, on n'en parle jamais de ça, mais c'est à dire que si effectivement un gamin né de parents maorais qui sont arrivés sur Mayotte moins de 3 mois avant la naissance de l'enfant, cet enfant-là ne peut pas être considéré comme français. Donc on suspend le droit du sol, et ça veut dire que l'enfant lui-même, évidemment, hérite en quelque sorte de la criminalisation active de ses parents, Donc, voilà.
Mais l'étrangeté de ses parents.
L'étrangeté de ses parents, faut quand même mesurer ce que ça, représente.
C'est une atteinte au droit du sol.
C'est une atteinte au droit du sol, fondamentale. C'est une
dans un département français.
Dans un département français.
Alors que le reste de la France continue de reconnaître le droit du sol. Donc,
voilà. Et donc la question que pose Errant, c'est en fait la question de savoir jusqu'où on va aller là-dedans. Sachant qu'en fait, il y a 60 km entre Mayotte et les autres îles des Comores. Et quand, donc il dit, alors en même temps, il a une petite ironie là-dessus, il dit en fait, évidemment que la situation de Mayotte n'est absolument pas comparable à celle de du territoire métropolitain, puisque là, on a tous les paramètres qui sont réunis pour qu'en fait que ça explose et que ça devienne ingérable. Et en fait, la discontinuité historique, la fameuse, elle est introduite bien évidemment par la France sur place. Hein. C'est-à-dire que l'aberration, c'est ça. Hein. Et donc, il dit qu'en même temps, c'est une bénédiction pour l'extrême droite qui veut y voir une espèce de scénario précurseur de ce qui se passera sur le territoire métropolitain, ce qui est une aberration, évidemment, géographique, démographique, tout ce que vous voulez, historique, tout ce que vous voulez. Mais évidemment, la question qu'il pose, lui, c'est justement de savoir jusqu'où on va aller hein, dans cette espèce de rupture d'égalité et de démantèlement de la République dans un territoire de la République, dans un département républicain. Bon, alors, on vous conseille ce passage-là parce que c'est... Voilà,
c'est assez implacable.
Il titre ça de manière assez, assez ironique. Mayotte, un cas limite de rupture historique. Mais tu m'étonnes. Et pas dans le sens où c'est utilisé habituellement. Alors,
on arrive à la fin de l'émission.
Alors, bon, peut-être citer deux trois, sans spoiler, en quelque sorte, hein, deux trois lignes sur de ces conclusions. Hein, donc, je cite à la fin. Le défi, nous dit Errant, est considérable. Hein, anticiper les crises migratoires, annoncer par les instances situées en première ligne, mobiliser au plus tôt les moyens humains nécessaires et pas seulement sous forme d'emplois précaires. Rappeler les réussites tout autant que les échecs de l'intégration. Saluer le rôle majeur des immigrés dans les emplois essentiels. Et pas seulement par temps de pandémie, relayer publiquement les travaux qui, tels ceux de l'OCDE dans son rapport de 2001, démontrent que l'immigration rapporte plus au budget public qu'elle ne lui coûte, rompre avec une logique perverse qui voudrait faire de l'intégration, voire de l'assimilation, une condition d'entrée sur le territoire, c'est un point très important.
Ça dit quelques mots dessus, parce que ça, c'est quand même un point fondamental.
Alors que l'intégration à la nation, nous dit Errant, c'est toujours effectué à force de temps, sur une ou deux générations au prix d'un effort mutuel de toutes les parties, bref, sortir du déni. Ça, c'est fondamental, c'est qu'il rappelle qu'en fait, l'espèce de bond en arrière qu'on est en train de faire là-dessus consiste à essayer de mettre toujours plus de conditions pour pouvoir séjourner sur le territoire. Et donc, notamment des conditions de maîtrise de la langue, de maîtrise culturelle, etc. Et
tout cela... On exige des gens qui soient français avant de le devenir.
Exactement.
Officiellement.
On exige qu'ils soient intégrés en arrivant.
C'est ça. Voilà. Et
ce qui rend l'intégration évidemment impossible, alors que c'est un phénomène qui se fait sur la durée, une, deux, voire trois générations, mais qui se fait. Et effectivement, Errant montre qu'on arrive aussi à des aberrations dont les gens qui placent la barre de plus en plus haut à l'entrée pour les titres de séjour ne se rendent pas forcément compte. Et Errant souligne avec une petite ironie aussi que, en fait, si on met des examens de maîtrise de la langue française pour pouvoir accéder à des titres de séjour sur le territoire français, on introduit un biais dont peut-être les partisans de droite ou d'extrême droite n'ont pas complètement conscience, c'est qu'en fait, du coup, on favorise largement l'immigration ouest-africaine ou d'Afrique du Nord ou maghrébine, puisque eux sont francophones, au détriment des autres pays du monde qui eux, ne sont pas francophones. Mais donc voilà, on arrive sur des situations de culbute complètement ahurissantes. Donc voilà, je livre pas polémique, en même temps avec des faits voilà, argumentés, documentés. C'est une introduction et c'est un préalable voilà, assez indispensable pour les débats à venir qui vont pas manquer de se durcir, hein, parce que là, c'est la tendance, elle est quand même donnée. Non seulement autour de la future loi immigration là, proposée par Darmanin, qui sera proposée par Darmanin, mais malheureusement, je crains aussi un petit peu pour la suite, là, hein, parce qu'on a l'air d'être parti on a l'air d'avoir allumé la pompe à merde, là, et donc c'est toujours utile d'avoir des éléments un peu objectif sur là-dessus. Donc voilà, c'était François Errant, donc Immigration, le grand déni, aux éditions du Seuil. C'est un livre qui vient de sortir donc dans la collection de la République des idées. Et on vous dit à la prochaine fois. Comme d'habitude, l'émission est disponible en podcast sur les archives de l'émission sur le site gurdulu.org. jeudinoir.gurdulu.org.
Voilà, et on va écouter un morceau de Fiasco, L'enfer du séjour, hein, quand même. Le titre est pas mal et l'album est magnifique. Thank you.
toujours l'enfer du séjour. Et c'est encore, et c'est toujours l'enfer du séjour. Les uns des autres comme soulevés par d'un pardonnable refrain. Et c'est encore, et c'est toujours l'enfer du séjour. Parfois un bateau anxieux qui demande à en